photos de classe. Pour perpétuer cette jolie tradition, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Dimitri Weber, jeune photographe qui a fait des paysages colorés et vertigineux sa spécialité. Dimitri Weber, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours, sur tes différentes activités, puisque tu es, comme je disais, photographe. Alors, c'est toujours un petit peu abstrait et même frustrant de parler de photographie à la radio, qui est un média uniquement audio. Mais de toute façon, c'est aussi, tu seras là pour ça, nous faire voyager, nous parler de tes photos avec tes mots et de pouvoir qu'on puisse les représenter. Et puis, pour ceux qui veulent aussi, pendant en tout cas et après l'émission, ils pourront aussi également aller voir ton book, ton portfolio, comme on dit, puisque tout ça est disponible en ligne. Alors, tout d'abord, question pour commencer au commencement, question œuf ou la poule, comme j'aime bien dire. Comment est-ce que tu t'es lancé dans la photo? Tout d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours une place importante dans ta vie, y compris quand tu étais plus jeune, y compris de façon inconsciente?
C'était un peu une histoire d'amour et de désamour, on va dire. Mon père faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de photographies quand j'étais en voyage avec mes parents.
D'accord.
On devait tout le temps l'attendre partout. On devait toujours faire un peu selon ses envies, ce qui avait tendance un peu à nous embêter parfois. Et du coup, au début, la photo, j'aimais pas trop ça.
Ouais.
Parce que c'était justement du temps perdu.
Une contrainte.
À l'époque, une contrainte. Et maintenant, c'est un peu moi qui fous des contraintes à tout le monde avec mes photos. Mais du coup, comment je me suis mis à la photographie? Tout d'abord à la fac. Ouais. Tout d'abord à la fac. J'étais dans une association de photographie à Paris-Dauphine.
D'accord.
Où j'ai fait beaucoup d'années finalement. J'ai été responsable création, puis président. Sauf que c'était de la photo de soirée, donc pas forcément de la photo d'art.
Mmh.
Donc plutôt de la quantité plutôt que la qualité. Et après ça, j'avais pour projet de partir en Australie pendant un voyage.
D'accord.
Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un peu comme ce qui était à la mode à l'époque, c'était en 2018. Donc une vidéo sur de la musique un peu électro, un peu trash comme on aimait bien à l'époque, de vidéos de drone parce que c'était aussi la mode à l'époque. Et donc je me suis acheté un drone en pensant faire de la vidéo à la base et finalement je me suis rendu compte que ça permettait d'avoir un tout autre point de vue du monde qui nous entoure et surtout du voyage que j'avais entrepris. Et du coup je me suis mis, pas à 100% dessus au début, mais je suis vraiment tombé amoureux du mode photo du drone. Et à partir de là, c'était parti.
D'accord. Donc là, aujourd'hui, une grande partie ou l'intégralité des photos que tu prends, c'est via le drone.
95%.
D'accord. 95%. Et justement, parce qu'un drone, il y en a beaucoup, on entend et on lit beaucoup de choses dessus. Toi, je disais sur ton site que tu as un brevet de pilote de drone, tout à fait. Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que tu es assermenté, il y a des lieux dans lesquels tu as pour autant pas le droit de te rendre. Dans quelles conditions est-ce que tu exerces ta pratique?
Pendant longtemps, en fait, j'ai fait de la photographie avec le drone en loisir pur. C'est-à-dire que j'avais pas de diplôme de pilote ni rien. Globalement, en fait, la législation, elle est assez commune si on a un diplôme ou pas. C'est juste que si on a un diplôme, on a le droit de demander des autorisations pour survoler des zones notamment peuplées,
mmh.
Mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire en bloquant potentiellement la circulation, en restant dans une distance et au sol et une distance en hauteur aussi réglementaire. Forcément, quand on est un peu en vacances, au tout début, notamment, quand on découvre un peu le drone, la législation, etc., parfois, ça arrive d'aller un peu au-delà de cette législation. Et maintenant, en étant pilote, forcément, il faut rester dans un cadre, il faut rester dans les bonnes réglementations de vol.
D'accord. Et tu parlais de certains endroits que tu peux, notamment pour lesquels la circulation peut être bloquée. Toi, ça t'est déjà arrivé de photos très spécifiques dans lesquelles tu as eu besoin de faire ça ou des cas assez particuliers comme celui-ci?
C'était pas vraiment lié à la photo parce qu'en fait, j'ai eu aussi une activité freelance à un moment où j'étais pilote de drone.
D'accord.
Mais pas vraiment pour faire de la photo, c'était plutôt pour faire de la topographie ou de l'imagerie 3D.
D'accord.
Et donc, dans ce cas-là, avec mes clients, on faisait des missions dans des villes. Il y a eu notamment une mission près du château de Blois.
Oui.
Et donc, autour du château de Blois, il fallait bloquer la circulation ou au moins s'arranger avec la préfecture, prévenir l'héliport de l'hôpital, prévenir potentiellement l'armée. Enfin, c'est pas mal de contraintes et de démarches pour s'assurer en fait, qu'on ait un vol 100% légal et 100% sécurisé en fait.
D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là, toi, quand tu as commencé à faire à t'intéresser vraiment à la photo, à la pratique régulière, même, on va dire, que très rapidement, tu as su que ce qui concernait la prise de photos de paysages, ça devenait ta spécialité. Est-ce que ça s'est imposé naturellement? C'est aussi après avoir passé beaucoup de temps à photographier la topographie assez particulière finalement de l'Australie. Comment ça t'est venu?
Je pense que c'est venu assez naturellement. Typiquement en Australie, j'avais pas trop d'idées en tête de ce que j'allais prendre en photo.
Mmh.
J'avais une liste, une to-do list même de vidéos que je voulais prendre. Et c'est la preuve d'ailleurs que la photo sur place m'est apparue un peu comme ça, comme par magie, parce que vraiment à la base c'était vraiment 100% vidéo. Et au final, pendant les voyages, on a croisé des baleines. J'ai fait voler mon drone près des baleines, j'ai fait voler mon drone dans le désert et j'étais beaucoup plus à l'aise en fait à travailler cette matière-là plutôt que la matière vidéographique. Potentiellement parce que je savais mieux utiliser les logiciels de retouche photo, mais aussi parce que je me sentais un peu plus avec avoir une plage de liberté un peu plus large niveau créativité, de retouche des couleurs, de composition aussi. Donc c'est venu assez naturellement finalement les paysages.
Justement, tu parlais à l'instant, je rebondis parce que tu parlais des retouches. Est-ce que toi, les photos que tu prends, est-ce que tu les retouches beaucoup? Est-ce que, puisque au-delà les retouches qui peuvent avoir lieu, c'est tout ce qui concerne le cadre et tout, mais il y a ce qui concerne également la colorimétrie, l'usage des couleurs. Et justement, toi, c'est ce qu'on disait, des paysages très colorés, aux couleurs très chamarrées, ouais. C'est un petit peu ce qui est devenu ta spécialité. Est-ce que justement, en termes de, on va dire, est-ce que toi-même, tu te fixes des limites, c'est-à-dire de te dire, le paysage, je l'ai pris en orange, et il était orange, et je ne vais pas trop forcer sur l'orange parce que ça reste naturel. Comment ça se fait à ton appréciation? Comment est-ce que ça se fait?
Alors, déjà, ça se fait avec les années, j'ai envie de dire, parce qu'au tout début, justement, j'avais tendance à trop saturer, mettre beaucoup de clarté, mettre de la surexposition, de la sous-exposition. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi, finalement, pour tester à l'époque. Maintenant, ça doit faire, je pense, 2 ans que je me suis trouvé un style avec lequel je suis à l'aise, un style colorimétrique d'abord. Et au fur et à mesure, je me rends compte, depuis que j'ai trouvé ce style-là, que j'ai tendance à de plus en plus me rapprocher des couleurs naturelles, de mettre de moins en moins de contraste, de moins en moins de saturation, et d'avoir une photo qui, pour moi, en tout cas, se rapproche le plus fidèlement de la réalité augmentée.
D'accord.
C'est jamais une photo qui n'est pas retouchée.
D'accord.
Je retouche toujours mes photos, parce que aussi, ça me permet aussi de mettre ma patte au-delà de la prise de vue. Il y a aussi, effectivement, le cadrage. Il y a la couleur, qui est le plus important. Et ça permet aussi de mettre des éléments de la photo en valeur.
D'accord.
Sans trop en jouer, mais la liberté justement de la photographie, ça permet de faire un peu ce qu'on veut, et après c'est à l'artiste de se mettre ses limites.
Et justement, plutôt que d'une réalité simple, toi tu parles d'une réalité augmentée. Qu'est-ce que tu entends par là?
Tout simplement les couleurs. Parce que les couleurs qu'on voit dans la vie de tous les jours, elles sont très belles. Mais il y a certaines couleurs que j'aime bien plus faire ressortir. Ça peut être soit des petits détails sur une photo parce que j'ai envie de rendre un lac un peu plus lumineux, un peu plus turquoise, il faut l'admettre aussi. Soit finalement faire ressortir des couleurs qui sont naturelles, mais qui ne ressortent pas suffisamment bien sur la photo parce que la lumière n'est pas suffisamment bonne. Il y a un des sujets que j'aime beaucoup, c'est les marais salants. Il y en a de toutes les couleurs du monde, et en Espagne, il y en a notamment beaucoup. Il y en a des roses, il y en a des oranges, il y en a des verts. Finalement, sans retoucher ces photos-là, sans faire ressortir ces couleurs-là, on pourrait passer à côté finalement d'une part un peu fantasmagorique de la photo. Et j'aime bien justement avoir ce côté un peu pop, tout en essayant de rester dans ce qui semble le plus réel possible.
D'accord. Mais sans plus, aller dans le fluo, mais pour autant...
C'est ça, pas le fluo, mais c'est un juste milieu entre faire comprendre que la photo a été retouchée, mais faire comprendre qu'elle n'a pas trop été.
Ouais. Et finalement, quand tu parles d'un turquoise qui sur la photo, en tout cas, ne rend pas assez turquoise ou des couleurs que tu vas retoucher comme ça, c'est aussi ce qui te permet de faire peut-être ressortir, au-delà de sa représentation, de faire ressortir l'âme du lieu peut-être, quoi.
Ouais. Mais c'est assez vrai. Ça permet de aussi de faire ressentir ce que je ressens moi en voyant la photo brute.
Presque sensorielle.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, moi, je vois mon écran d'ordinateur, je vois la photo totalement brute, avec des couleurs assez neutres, parce que justement, je prends les photos dans un format décontrasté, pour pouvoir justement pour pouvoir rajouter du contraste si je veux, en enlever si je veux. En fait, c'est un espèce de profil colorimétrique. C'est un mot un peu vulgaire, mais ça permet en fait de faire un peu ce que je veux avec la photo. Et justement, de partir de cette feuille quasiment blanche, ça me permet ensuite de moi, avec mon œil, appliquer la couleur que je veux, tout en étant du coup le plus fidèle possible. Mais ça me permet du coup justement de quand je suis devant mon écran d'ordinateur et devant le logiciel de retouche, de me dire en fait ça j'ai envie de le mettre en avant. Ça, j'ai envie de le cacher un peu plus pour pouvoir mettre en valeur quelque chose d'autre dans la photo. Et du coup, c'est cet équilibre à trouver entre ne pas tout mettre en avant, mettre certains éléments en avant. C'est un peu un travail de ce côté-là.
Ok. Et justement, par rapport à ce que tu disais, les différentes étapes, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que finalement, presque, contrairement à ce qu'on peut croire habituellement ou à une idée reçue, toi, ton, j'allais dire, non seulement ton travail de photographe, il ne s'arrête pas au moment où tu appuies sur le bouton et où tu prends la photo, mais il commence presque à ce moment-là, finalement.
Il commence carrément parce que j'ai une énorme file d'attente de photos à retoucher.
D'accord.
Là, je suis sur une salve de 700 et quelques photos qui datent de l'été 2021.
D'accord.
Donc, ça commence à dater un peu. Entre-temps, j'ai pris des photos en 2022 qui sont aussi dans la file d'attente. Donc effectivement, non, en fait, le travail commence réellement une fois que j'ai pris la photo, parce que finalement, quand je voyage et quand je prends des photos, je vais à un point que j'ai repéré a priori en amont, ou alors sur lequel je tombe. Je prends ma photo pendant quelques minutes et je repars à un autre point. Finalement, j'en fais rien de ces photos jusqu'à ce que je revienne de voyage. Et à partir du moment où je reviens de ce trajet-là, je commence à les retoucher. Sauf que entre les aléas de la vie, etc., ça prend plus de temps parfois. Il y a aussi des périodes où on peut avoir aussi des vides créatifs. Moi, ça m'est beaucoup arrivé ces derniers mois, des vides créatifs où finalement, je n'étais pas inspiré. Je n'arrivais pas à trouver finalement la valeur que je voulais apporter à une photo. Je n'arrivais pas à trouver la bonne colorimétrie. Je bloquais un peu et du coup, j'y retourne quelques semaines, quelques mois plus tard. C'est un peu... C'est un travail de longue haleine, on va dire.
Ok. Et les passages à vide dont tu parlais, justement, est-ce que c'est un moment, c'est quelque chose qui te revient assez naturellement, façon boomerang, ou est-ce que tu te réveilles un matin avec presque une révélation, ou alors c'est quelque chose, justement, tu fais le chemin en sens inverse pour savoir qu'est-ce qui t'avait attiré vers le lieu en premier lieu, et comment tu peux faire ce travail-là ensuite de retouche.
Ouais, alors le retour en arrière sur ce que j'avais, enfin la raison pour laquelle j'avais envie de prendre ce lieu en photo, ça me reste en tête globalement. Ce qui m'arrive la plupart du temps, c'est que j'ai un pic de motivation et je me dis bon, cette fois-ci il faut s'y mettre. Je mets de la musique dans les oreilles et je m'y mets. Et en ce moment, je me lève tôt pour retoucher mes photos de l'été 2021. Donc ça marche plutôt bien.
Tu envoies bientôt le bout.
J'envoie bientôt le bout. Je suis enfin, en gros, tous les matins avant d'aller au travail, je retouche mes photos et tous les matins, je calcule le pourcentage de complétion supplémentaire que j'ai fait. Et là, je suis arrivé ce matin à 75%.
Félicitations. T'as fait
Donc je m'approche de la fin. Ouais.
D'accord. Et au-delà d'Australie, de l'Australie dont tu parlais, par le biais de tes, on va dire, de tes pérégrinations photographiques, tu as vu et photographié quel lieu pour l'instant et quels lieux t'ont marqué?
Ouais, alors
au-delà des marais salants que tu
au-delà des
mentionnais
marais
déjà.
salants qui m'ont bien plu. Alors, on va faire une période avant Covid, une période après Covid, parce que
Comme tout le monde.
ça a beaucoup changé comme tout le monde. Donc, avant Covid, j'ai fait un petit road trip au Japon, qui est un pays que j'affectionne beaucoup. J'étais déjà allé 2 fois auparavant. Je savais que ça pouvait être un lieu d'inspiration photographique. Ça a été le cas. Et pour le coup, contrairement à ce que j'ai dit plus tôt, c'était 50% des photos aériennes, 50% des photos à pied,
D'accord.
parce que c'est un pays qui m'a inspiré beaucoup d'un point de vue photographique. Après ça, j'ai pu aussi faire un petit road trip en partant de Paris jusqu'au point le plus au nord de Scandinavie.
OK.
Donc c'était aussi assez sympathique avec des aurores boréales, beaucoup de fjords, donc en Norvège, Suède et aussi Finlande. Et puis après, la période post-Covid, où j'ai pas voyagé pendant quelques temps, et où j'ai découvert la beauté des pays qui nous sont très très proches, notamment l'Espagne. J'ai pu faire un petit road trip en Espagne d'une semaine où je passais ma journée et mes journées à faire lever de soleil, coucher de soleil et photos entre deux. Que ce soit autour de Séville en Andalousie ou les Bardenas Reales, qui est un désert près du Pays basque espagnol. Et puis aussi l'été dernier, tout ce qui est Italie, Slovénie, Autriche et Suisse. Donc, beaucoup d'Europe dernièrement, l'Écosse aussi récemment, mais avant ça, c'était des destinations un peu plus lointaines.
Et justement, on parlait de ton travail de retouche et on parlait de la colorimétrie. Là aussi, finalement, toi, ton travail s'adapte en fonction de la destination, puisque tu parlais du Japon, par exemple, c'est un très bon exemple, puisque c'est un pays qui est, que ce soit, il y a beaucoup comment dire, de zones qui sont très, très vertes, mais aussi il y a beaucoup de zones. Alors, toi, je ne sais pas dans quel endroit tu as voyagé exactement, mais d'endroits de centre-ville qui sont très éclairés. Donc là encore, j'imagine que chaque colorimétrie et chaque code, j'allais parler de code couleur, mais que tu retiens dépendra aussi de ça.
Ouais, totalement. Enfin, je pense que chaque voyage, un peu, a, dans mon esprit en tout cas, ses codes couleurs. Le Japon, comme tu dis, c'est beaucoup plus vert, c'est parfois de la brume, c'est un peu de bleuté, et c'est aussi les néons de la ville. À l'opposé de ça, l'Espagne, c'est une plage couleur beaucoup plus qui tend vers l'orange, jaune, rouge. Et il s'agit de jouer avec ces âmes colorimétriques tout en conservant l'esprit de mes photos d'un point de vue général et d'avoir une espèce de cohérence. Pas toujours simple. Pas toujours simple, mais assez intéressant
Oui, pour
de
autant,
faire ce travail-là.
oui, parce que pour autant, il y a ce que tu disais avant, c'est-à-dire qu'il y a ta patte, il y a ton style qui est pour autant reconnaissable. Donc en fait, j'allais parler d'un double travail dans le sens où il faut à la fois faire ressortir la vérité du lieu que tu as pris en
Oui.
photo et pour autant garder ton style et ta patte. C'est ça que
C'est ça.
tu c'est ça fait partie, peut-être d'autres, mais ça fait partie de toutes ces choses-là. C'est des choses que tu dois garder en tête au moment où quand tu parlais des choix que tu faisais, des choix créatifs concrètement de ce que tu vas apposer sur la photo finalement.
Totalement, totalement. Et il y a aussi, je pense, un aspect de maturité, même si ça paraît bizarre dit comme ça, mais où finalement, par rapport à ce que je faisais comme colorimétrie au début où j'ai commencé à prendre des photos, où c'était très pâle, très contrasté, mais très bleuté. Et maintenant, en fait, je me tombe énormément vers les couleurs chaudes, vers l'orange. Et du coup, tout évolue. Et c'est pour ça que j'ai notamment re-retouché toutes
D'accord.
les photos que j'avais faites au Japon, en Australie, il y a longtemps, finalement.
Donc,
Et
ouais,
je les ai
c'est.
toutes retouchées avec mes codes colorimétriques que j'ai actuellement, parce que j'étais plus content de ce que j'avais fait. Je trouvais que ça ne me correspondait plus du tout, en fait.
D'accord.
Et donc, j'ai tout repassé au peigne fin, déjà en resélectionnant les photos que j'avais envie de retoucher, en découvrant qu'il y avait des photos finalement que j'avais prises, que j'avais mis de côté, limite jeter à la poubelle, il y a quelques années et que finalement, j'ai réussi à en tirer quelque chose qui me satisfaisait et que j'avais envie de mettre en avant. Et surtout, d'un point de vue colorimétrique, je m'y retrouve beaucoup plus. Alors que je repasse en revue les photos que je prenais à l'époque, je me dis, non, ça va pas. Ça va pas du tout.
Oui, c'est-à-dire que tu t'interdis rien, tu t'autorises à revenir, à retoucher à des choses que tu avais déjà fait aussi, puisque, on va dire, tes goûts personnels ont changé, et puis c'est aussi peut-être ton œil qui s'est affûté et que tu vois ou tu vois maintenant des choses dans la mise en scène, dans le cadrage que tu voyais pas avant aussi, quoi.
Alors malheureusement le cadrage
tu peux pas y faire grand chose.
C'est compliqué d'y faire grand chose sauf si c'est une photo de prise de très très loin ou avoir un gros panorama sur lequel je peux vraiment changer le cadrage, mais le cadrage a priori il est un peu figé, mais effectivement ce que je peux adapter par rapport à ma connaissance de moi-même finalement, de ma connaissance de ce que j'ai envie de retoucher, c'est tout ce qui est la luminosité, la couleur.
D'accord. Et tu parlais de la façon dont tu étais venu à la photo. Tu disais que alors déjà il y avait cette première expérience, ou en tout cas cette première connaissance de la discipline via ton papa. Tu disais ensuite comment tu avais comment tu étais venu pour de bon les deux pieds dedans. Est-ce qu'il y a pour autant des photographes par lesquels tu es toujours particulièrement influencé, qui sont des modèles que tu gardes en tête, ou alors au contraire, est-ce que tu as une approche délibérément un peu naïve de cette discipline?
Alors, je pense que globalement, c'est une approche assez naïve. Ouais. J'avais pas de photographe préféré ni d'inspiration. C'est juste qu'au tout début, et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis acheté un drone à l'époque, il y a un photographe allemand qui s'appelle Tom Hegen, H-E-G-E-N.
D'accord.
Qui fait en fait des photos aériennes, mais pour dénoncer en fait l'impact de l'homme sur l'environnement, sur le monde. Même si au début, quand il a commencé à prendre ses photos, c'était un peu moins le cas, mais il s'est spécialisé là-dedans, et dans un aspect beaucoup plus reportage documentaire.
D'accord.
Notamment les mines de charbon, les marais salants, il en a fait beaucoup. Et en fait, c'est assez drôle, parce que même si maintenant, ma spécialité, c'est plutôt les paysages, c'est toutes ces photos abstraites prises de points de vue assez nouveaux, en tout cas pour l'époque, pour 2017-2018, c'était des photos qu'on n'avait un peu jamais vues, un peu à la Yann Arthus Bartrand finalement, mais d'un peu plus proche.
Également, ouais.
Ouais. Et c'est ce photographe-là qui m'a poussé à acheter un drone, on va dire.
Mm-hmm.
Pas forcément une inspiration, parce que justement j'avais envie de voir un peu ce que je voulais faire.
Mm-hmm.
Et au-delà de ça, effectivement, une approche assez naïve, parce que je m'inspire plus ou moins finalement de photographes aériens, de photographes drones. Mais comme c'est un aspect de la photographie assez nouveau, assez neuf,
d'accord,
bah c'est pas des photographes historiques, c'est pas des photographes où je peux dire que c'est une référence et dont je suis fier. C'est des photographes Instagram en fait. Et je trouve pas que ça soit honteux de dire ça, parce que finalement, vu que c'est une nouvelle manière d'apprécier et de prendre des photographies, c'est aussi finalement des potentielles futures références finalement.
Bien sûr.
C'est-à-dire que peut-être que plus tard, Tom Hegen sera connu comme un des plus grands photographes du 21e siècle. Il a eu énormément de prix, il a un aspect, une vision de la photographie hyper intéressante, un aspect colorimétrique aussi très, très doux, très naturel, qui est assez inspirant aussi. Donc c'est à la fois une approche naïve, mais aussi s'inspirer de ce qui se fait dans le milieu de la photographie aérienne.
Mmh. Ok, et oui, ce que tu disais justement, c'est une question que je comptais te poser et que tu abordes de toi-même. Inévitablement, quand on photographie beaucoup de paysages, comme tu le fais, des animaux, à travers les années, c'est aussi le moyen d'observer la nature, les paysages qui évoluent et qui est parfois endommagé ouais, souvent par l'homme. Est-ce que toi, tu as comme tu le disais tout à l'heure, tu as une carrière plus récente, mais est-ce que
dans le cadre de certains paysages que tu as eu ou certaines choses que tu as eu l'occasion de photographier plusieurs fois, une première fois puis d'y revenir. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates?
Ouais, totalement.
Quand on parle de sécheresse, non, totalement. En ce moment, c'est très actuel.
Totalement. Alors, on va dire de manière assez simple que c'est pas un combat, c'est-à-dire que je me considère pas comme un photographe qui a envie de montrer ces aspects-là.
Militant.
C'est pas, enfin, oui, c'est ça, pas un aspect militant, mais malgré tout, j'ai largement pu constater qu'il y avait l'impact finalement de l'homme et au-delà de ça, du dérèglement climatique sur même mon aspect photographique. Mmh. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de paysages que j'ai adoré prendre en photo, mais avec un drone qui était un peu plus vieux, que j'ai changé depuis. Donc j'avais envie d'y retourner et du coup de reprendre des photos dans ces endroits-là. Beaucoup de photos finalement des paysages près de rivières qui sont totalement asséchés en fait finalement. Je pense comme ça naturellement aux gorges de Daluy qui sont des gorges assez colorées, assez rouges, un peu Colorado, Californie, un peu ahurissantes finalement en France, qui sont un peu au-dessus de Nice. Où j'étais allé en 2018 pour la première fois, il me semble, où il y avait une rivière qui coulait et tout était assez vert, luxuriant, ce qui était d'ailleurs assez beau pour recouvrir les montagnes qui étaient très rouges. Mmh. Et j'y suis retourné du coup l'année dernière, en 2021, et tout était asséché. Ouais, c'est ça. Tout était asséché, pourtant c'était pas pendant l'été. Donc c'est des trucs qui se remarquent assez rapidement. Il y a aussi un autre aspect, c'est que je fais mes recherches de lieux photographiques énormément grâce à Google Maps et Google Earth. Et ça m'est arrivé plein de fois d'arriver sur le lieu et de me rendre compte que ça avait totalement changé.
Par rapport aux photographies qui avaient été prises
Ouais, même si souvent c'est des photos pas en haute définition. Oui,
mais constater au moins la différence.
Ouais. Notamment des lacs, notamment des rivières, notamment tout ce genre de choses. Les Minas de Rio Tinto en Espagne, qui sont donc. Le Rio Tinto, c'est une rivière connue pour être très rouge à cause du cuivre des mines qui sont à son nord. Finalement, en fait, sur Google Maps, c'est rouge, ça ressort bien, c'est assez. C'est une vraie rivière, quoi. Et finalement, quand j'étais là-bas, c'est à sec. Totalement à sec. Il y a 2-3 bouts de ruisseaux, mais effectivement, ça se ressent totalement.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Pour rejoindre quelque chose que tu disais auparavant, tu ne souhaites pas forcément te positionner comme un photographe militant. Pour autant, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse de pouvoir, à ton échelle, hein, bien sûr, sensibiliser les gens qui regardent tes photos sur ces thématiques-là.
Ouais, totalement. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire de manière trop intense, parce que je pense qu'il faut être aussi... Faut sentir à l'aise avec le sujet, d'une certaine manière. Mais si c'est quelque chose que je peux montrer et de faire des comparaisons, parce que justement ça permet de faire des comparaisons, ça peut être assez intéressant. Et en fait, au-delà de ça, je trouve que le drone, même si c'est pas forcément à mon échelle, mais le drone permet énormément de choses sur cet aspect du changement climatique. Ça permet de prendre des points de vue différents, de prendre des points de vue beaucoup plus larges et de voir l'impact finalement de manière beaucoup plus fortement. Mais ça serait pas forcément dans un cadre photographique finalement. Enfin, c'est plutôt l'industrie du drone qui je trouve peut apporter énormément et mettre la lumière sur tout ça. En fait, je pense que d'un point de vue industriel, le drone peut permettre de voir le monde et de différemment et d'y apporter des bons côtés.
D'accord.
Notamment, enfin c'est tout con, hein, même ça ne rapproche pas du tout du sujet du changement climatique, mais il y a beaucoup plus de cas en fait de personnes qui ont été sauvées la noyade grâce à des drones. Il y a énormément d'usages en fait maintenant à un drone. Il est utilisé énormément par les pompiers. Là, en fait, je vais faire le lien tout simplement, mais dans le cadre d'incendie, autant pour une personne lambda, c'est totalement interdit d'utiliser son drone à proximité d'un incendie pour des raisons très simples de sécurité, parce que s'il y a un Canadair ou un hélicoptère à proximité, c'est dangereux pour les pilotes de l'hélicoptère, c'est dangereux pour les pompiers à terre, c'est dangereux pour tout le monde finalement. Mais par contre, le drone pour les pompiers peut apporter énormément de bienfaits pour voir d'où partent les feux, pour voir où est-ce que, d'où, par où va le vent, par où va le brasier. Donc, si, même si moi, à mon échelle, je me sens peut-être moins légitime à montrer ces aspects-là, je suis quand même content d'utiliser un outil qui est largement utilisé justement pour aider les hommes à combattre justement le dérèglement climatique.
D'accord. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que justement, l'usage du drone dans le cadre de la photographie, c'est un des ou de la vidéo, comme tu disais au début, c'est quelque chose auquel on pense le plus souvent. Mais pour autant, c'est ce que tu dis, il y a aujourd'hui un grand nombre d'usages qui sont possibles. Et c'est vrai que c'est bien que ça continue à évoluer. Et justement, ce qui est... Je te rejoins en tout cas sur ce que tu dis là-dessus. Ce qui est bien, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le drone, comme toute technologie, il est bénéfique quand il peut, quand il permet de prendre le relais là où des personnes humaines ne peuvent pas aller, ou en tout cas quand c'est trop dangereux pour eux, comme tu parlais dans le cas d'incendie ou de sauvetage de noyade. C'est ça qui est intéressant également.
Totalement. Sans oublier l'aspect un peu négatif que tout le monde doit avoir en tête quand on entend parler de drone, de vie privée, de sentir observé, du bruit, parce que c'est un petit bourdonnement un peu désagréable dans les oreilles. Et c'est pour ça que je suis très au fait de ces désagréments-là. Et quand je prends des photos, justement, j'essaye au maximum de m'écarter en fait, de tout le monde. Tout simplement déjà pour pas être dérangé, pour pouvoir voler tranquillement, de pouvoir être concentré sur le drone, pour être concentré sur le vol. C'est tout con, mais le plus gros ennemi des drones, c'est les oiseaux. Il y en a beaucoup, donc faut pouvoir observer, faut pas les déranger. Si on sent qu'il y a des mouettes qui s'affolent, qui commencent un peu à tourner autour, c'est qu'on est proche d'un nid, donc faut s'en écarter. C'est tous ces aspects-là.
Aussi de laisser les oiseaux tranquilles. Et puis
oui,
voilà,
totalement. Ouais, et tout simplement d'atterrir, en fait. Ouais. Parce que au-delà du fait qu'elles vont essayer d'attaquer le drone, c'est surtout qu'on les dérange. Et que dans le ciel, elles sont un peu plus chez elles que le drone. Quoi.
D'accord. Ok. Et justement, alors on parlait des photos que tu prends, c'est tout ce qui concerne des paysages, principalement de la nature et des photos de la nature et des animaux. Je regardais que ce soit sur ton compte Instagram ou sur ton book. Alors peut-être que dans un autre cadre c'est le cas, mais finalement quelque chose qui n'est pas ta spécialité, que tu fais assez peu, c'est des portraits et même des personnes, des photos de personnes humaines, pour le dire comme ça. Est-ce que à force justement de pas pratiquer ça, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît plus difficile, qui te fait peur, qui t'intéresse moins, tout simplement?
C'est un peu des deux. Déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément, mais justement sûrement parce que ça me fait un peu peur. Je pense que le portrait, faut être à l'aise avec la personne. Faut pouvoir diriger la personne pour avoir une expression, l'expression souhaitée, ou alors faut être suffisamment à l'aise pour prendre une photo à la volée. Ça, c'est, je pense, la chose avec laquelle je suis moins à l'aise, de entre guillemets voler un moment d'intimité. C'est pas simple, je trouve. Mm-hmm. C'est quelque chose d'assez d'intime finalement. C'est très personnel, mais une photo à la volée comme ça dans la rue. Au Japon, j'en ai fait quelques photos pseudo-portraits, mais à chaque fois, les personnes étaient de dos ou de côté, parce que peut-être que c'est un peu intimidant aussi d'avoir le visage dans l'objectif. C'est tout simplement un sujet à la fois avec lequel je me sens pas forcément à l'aise, avec quelque chose non plus, et pour cette raison-là, j'ai pas forcément envie d'approfondir ni de m'y aventurer. Enfin, c'est un peu un mix des deux.
D'accord. Oui, c'est aussi peut-être que tu, par rapport au type de photographie que tu pratiques aujourd'hui, tu en as pas, t'as pas encore le sentiment d'en avoir fait totalement le tour.
Ouais. Oui. Totalement, parce que mon type de photographie, c'est tout simplement en fait de. Si on doit résumer grossièrement, c'est de la photographie de voyage. Mmh. Et donc finalement, c'est un peu inépuisable. C'est-à-dire que. Oui.
Avant d'avoir fait le tour du monde.
C'est ça, j'ai des centaines de pays et de projets en tête. avant d'avoir épuisé ça, le portrait c'est dans longtemps. On va dire
et justement, la transition est toute trouvée. Alors, on parlait de, comme tout le monde, avant, après l'apocalypse, avant, après le Covid. Aujourd'hui, on est revenu à une, alors à de rares exceptions, bref, hein, un paradigme, on va le dire comme ça, où on peut un peu plus voyager. Est-ce que tu as à l'horizon des quelques prochains beaux voyages, quelques belles destinations et quelques beaux sujets de photos qui sont d'ores et déjà prévus?
Ouais. Bizarrement, je pense que le Covid m'a beaucoup aidé sur un point, c'est de retomber amoureux de l'Europe.
c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gens.
Pour beaucoup de gens, voire même de la France. Ouais, c'est ça.
Même des gens qui prennent des photos.
C'est ça.
On apprend davantage à apprécier ce qui se trouve dans notre jardin.
C'est exactement ça. Alors, autant la France, j'ai pas fait le tour. Hein. On va pas dire que j'ai fait le tour. Ouais. Les zones les plus proches de l'Île-de-France où je réside, je les ai un peu épuisées. Mmh. J'ai scruté Google Maps, Google Earth, etc. des heures et des heures. On va dire toutes les zones à 2 heures de Paris, soit je les ai faites, soit je sais que je suis un peu moins inspiré. Mm-hmm. Les pays européens, il y en a beaucoup que j'ai envie de faire encore. La Scandinavie, j'avais adoré, j'aimerais bien y retourner avec l'œil que j'ai actuellement. Le Portugal, j'ai jamais fait... en tout cas, en photographie, j'y étais allé en voyage, mais j'aimerais bien y retourner aussi. L'Italie, c'est un puissant fond d'un point de vue d'inspiration photographique.
Bien sûr.
L'Espagne, c'est un pays qui, d'un point de vue photographique aussi, est très sous-coté, je trouve, et avec des paysages qui fourmillent de variété, que ce soit des déserts, des forêts très vertes. Et je ne parle même pas des îles Canaries dans tout ça, je parle vraiment de l'Espagne continentale. Si je m'imagine et que je me projette dans des voyages un peu plus lointains, parce que j'en ai aussi, le prochain sur ma liste, c'est le Japon. Même si c'est encore un peu compliqué
et
actuellement.
Retourner avec l'œil d'aujourd'hui, justement, comme tu disais.
Ouais, alors.
Autre destination. Parce que c'est grand.
C'est grand. Le Japon, ça répondrait à deux de mes envies, un point de vue photographique, mais aussi un point de vue culturel, parce que c'est aussi un pays qui m'inspire beaucoup d'un point de vue culture, d'un point de vue personnel, plus largement. Mais en fait, c'est surtout que les 3 fois où je suis allé au Japon, à chaque fois, j'y suis allé l'été. Mmh. L'été, il fait chaud. Mmh. Et au-delà de ça, l'été au Japon, il pleut beaucoup et c'est très vert. Et le vert, c'est très joli, mais le Japon a 1000 couleurs tout le reste de l'année. Le rose au printemps, les couleurs de l'automne, rouge, orange, jaune en novembre. Et c'est la couleur que je vise. C'est le Japon en automne, donc la floraison des érables japonais. Même si c'est un projet pas simple actuellement, parce que les frontières sont ouverte, mais seulement avec un guide ou seulement avec une agence de voyage.
Ouais.
Un peu compliqué, un peu cher. Donc pour l'instant, c'est
mais
pas,
en tout cas,
c'est
tu
pas
as
résolu.
Ça dans, tu as ça dans un coin de ta tête.
J'ai ça dans le coin de ma tête. Dans le coin de ma tête, j'ai aussi plein de pays. L'Islande, c'est un pays que j'ai très très envie de faire.
Mm-hmm.
Pays qui a un sacré, où il faut un sacré budget pour pouvoir bien profiter, je pense.
Ouais.
C'est un pays où aussi, pour pouvoir profiter vraiment de tout le pays, il faut aussi louer un 4x4. Donc, d'un point de vue budget, c'est aussi une autre histoire. Et aussi un pays où il y a très peu de périodes pour y aller. Globalement, de juin à fin septembre, voire début octobre.
Mm-hmm.
Donc, ça implique beaucoup de contraintes. Mais oui, après, il y a tout ce qui est les Canaries, Madère, le Mexique. Enfin, beaucoup de pays, mais beaucoup de pays aussi de destinations photographiques que j'ai découvert assez récemment. Enfin, des envies photographiques que j'ai découvert récemment. Notamment Madère, c'est une île qui me fait très envie dernièrement et où j'irai, je pense, prochainement.
Eh ben, ça donne très envie de voyager, que ce soit au Japon ou aux Canaries, ça donne envie en tout cas. Alors Dimitri, on arrive malheureusement à la fin de l'émission, alors je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, donc je t'ai demandé de...
de travailler, de bûcher sur une œuvre culturelle que tu aimerais partager avec nous. Alors, la plupart du temps, mes invités me disent que le plus dur, c'est pas d'en retenir, d'en garder une, mais de n'en garder justement qu'une seule. Donc, est-ce que toi, tu as réussi à faire ce choix cornélien et à garder une seule recommandation ?
J'ai réussi.
Bravo.
J'ai réussi. Non, ça m'est venu assez de manière assez évidente. C'est un film. C'est un film qui s'appelle un film japonais déjà pour pas changer de dans le thème. C'est un film qui s'appelle.
C'est le fil conducteur.
C'est le fil conducteur. Ça s'appelle L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano qui est l'un des acteurs principaux du film avec un petit garçon et ça raconte l'histoire d'un petit enfant qui passe ses vacances d'été à traverser le Japon avec son oncle joué par Takeshi Kitano. Parce que sa mère peut tout simplement pas trop s'en occuper, parce qu'elle travaille, parce qu'elle veut pas s'en occuper. C'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est un voyage un peu fou. Ils font beaucoup de conneries, mais ils font aussi beaucoup de rencontres, d'aventures. La bande-son est juste dingue. C'est par Joe Hisaishi, l'auteur de notamment toutes les musiques d'Hayao Miyazaki, pour ceux qui connaissent. Et oui, c'est un peu. Je trouve que quand on est nostalgique du Japon ou qu'on a juste envie de s'imaginer un peu la campagne japonaise, c'est le parfait dépaysement de se retrouver devant ce film.
Ouais, effectivement, très bon choix, je conseille également. Et d'autant, ça sert également, je trouve, de très bonne porte d'entrée. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je trouve que ça sert de très bonne porte d'entrée à l'univers de Takeshi Kitano, puisqu'il a fait pas mal de films qui sont quand même très, voire ultra violents.
Très violents.
Celui-là, c'est un de ses plus. C'est quasiment.
C'est le seul, hein, presque.
C'est peut-être d'ailleurs le seul qui n'est pas ultra violent. Donc, qu'on peut regarder à un âge tout à fait. À un âge quand on est mineur. Donc, et pour autant, que ce soit dans les thématiques abordées ou dans la mise en scène, il y a pour autant beaucoup de. Enfin, c'est très cohérent avec les autres œuvres qu'il a fait. Et lui, il a fait des choses très, très comiques ou très violentes. Et ça, c'est comme tu dis, plus mélancolique, plus nostalgique. Et pour autant, c'est une autre facette du personnage de Kitano. Donc, c'est à découvrir absolument. Merci beaucoup pour cette très belle recommandation. Dimitri, merci beaucoup d'être venu dans l'émission, de nous avoir partagé ton savoir-faire, ta pratique, ta discipline de la photographie. J'espère que cette émission, comme je disais au début, c'est toujours un petit peu abstrait de parler de photographie à la radio. Donc, tu vas faire ça mieux que moi. Il y a plusieurs adresses sur lesquelles on peut retrouver ton travail.
Oui, on va en donner deux. Il y a le compte Instagram, c'est dimi.weber, W-E-B-E-R. Et le site internet, c'est dimiweberphotographie à l'anglaise avec un y.com.
Ouais. Vous pouvez retrouver les deux adresses sur la page du replay de l'émission. Merci beaucoup, Dimitri. Merci d'avoir participé à cette première émission.